Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. La France bouge au service d'un monde qui change et vous êtes au bon endroit pour découvrir des patronnes et des patrons qui se réinventent face à la crise. Vous allez voir que des acteurs de la société prennent des initiatives. Ici c'est simple, on trouve des solutions, elles sont françaises, ensemble avec Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à toutes et tous. Vous êtes généreux, oui, vous là qui êtes en train de nous écouter, les Français en général, et généreux malgré la crise. Les dons restent à des niveaux élevés malgré la difficulté pourtant pour les associations à organiser des événements. Notre invitée jusqu'à 14h, la patronne de la Fondation de France.
Elle a une en effet la philanthropie à la côte et nous recevons Alexandre Mars qui a fait fortune dans le numérique et son rêve démocratiser le don. Il gère sa fondation EPIC qui vient en aide aux jeunes défavorisés exactement comme une entreprise.
Vous connaissez peut-être cette marque de vêtements, elle s'appelle Cézanne, elle cartonne, il n'y a pas d'autre mot sur Internet. Cézanne, c'est aussi un programme scolaire intitulé Demain qui donne accès à l'éducation et sa fondatrice nous dira comment dans cette France bouge.
Chaque jour, les trophées Europe 1, la France bouge, un projet défendu par celle ou celui qui en a eu l'idée. Aujourd'hui, l'équipe de la France bouge et notre partenaire CCI France ont retenu Flo Fleur, des fleurs séchées bio à infuser et à fumer. De quoi s'agit-il? On en saura plus pendant le pitch à 13h45.
Tout un programme en tout cas. Et puis en fin d'émission, demain au travail, nous passerons un coup de fil à Bureau du Cœur. Là-bas, on ouvre les bureaux le soir pour les sans-abri. Une autre belle opération de générosité. On vous en parlera à 13h50.
Bienvenue dans La France bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Et oui, on le dit chaque jour, hein, cette France, elle bouge encore malgré ces confinements qui vont peut-être revenir. En tout cas, la solidarité bat son plein. Depuis le début de la crise, on assiste même, d'une certaine manière, à un retour en force de la générosité, de la solidarité. Et on en parle avec notre témoin du jour.
Bonjour Axel Davezac.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice générale de la Fondation de France et vous dirigez la plus importante organisation philanthropique en France, une fondation qui a été créée depuis plus de 50 ans. Chaque année, la Fondation de France accompagne près de 10 000 projets d'intérêt général et sur tout le territoire. Et à ce jour, elle abrite près de 900 fondations. Alors Axel Davezac, la crise a commencé depuis déjà un an. Les Français donnent-ils toujours autant? Sont-ils généreux?
Alors je crois que dans le bilan qu'on peut tirer de l'année 2020, au-delà de tout ce que nous avons vécu et partagé, moi j'y vois un vrai signal d'espoir parce qu'au mois de mars l'année dernière, au moment où la vie s'arrête, l'angoisse est extrême, nous avons vu une générosité absolument extraordinaire dans notre pays. Et à ce moment-là, la Fondation de France, nous avons décidé de lancer une alliance inédite entre plusieurs fondations, avec l'Institut Pasteur et les fondations Assistance Publique Hôpitaux de Paris, en se disant, il faut aller aider les soignants, il faut aller aider la recherche, il faut aller aider les personnes vulnérables. Et nous avons levé plus de 30 millions d'euros en quelques semaines. Et ça, c'est vraiment pour moi quelque chose de positif. Ça veut dire aussi que notre société, dans les moments où tout va mal, elle a la conviction que c'est la solidarité, la collectivité qui permettra de nous en sortir.
Et je crois que si on regarde au global, vous avez, pardonnez-moi l'expression, connu une bonne année 2020. C'est-à-dire que peut-être même à la surprise générale, il y a eu plus de générosité, plus de dons du côté de la Fondation de France.
Absolument, parce que la générosité ne s'est pas démentie au fil des mois de 2020. Et à la fin de cette année, nous avons connu une croissance de plus de 20% de la collecte des dons. Ce qui est tout à fait extraordinaire parce que ça signifie aussi que malgré les difficultés auxquelles tous les Français sont confrontés, pour certains de perte d'emploi, d'insécurité et d'incertitude, surtout face à l'avenir, malgré tout, ils se sont mobilisés pour venir en aide à ceux qui en ont besoin.
Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a jamais eu autant de dons de l'histoire à la Fondation de France, avec une hausse de 20%?
Oui, nous avons sorti, alors là vous avez des informations en avant-première, on a remonté la chronique sur les dons de la Fondation de France sur une quinzaine d'années, c'est la première fois qu'il y a autant de dons à la Fondation de France.
Donc vous nous dites, Axel Davezac, en direct là sur Europe 1, qu'il y a eu plus de 20% de dons en 2020 par rapport à 2019, 2020 année de cette pandémie mondiale. Ça veut dire aussi qu'il y a eu plus de nouveaux donateurs ou on a donné plus?
Non, c'est ça qui est vraiment très beau dans le mouvement qui s'est créé, c'est qu'il y a eu plein de nouveaux donateurs. Et le point important aussi, je pense, dans votre émission, ce sont les entreprises. Il y a plus de 500 entreprises qui nous ont contactés au mois de mars pour participer, absolument, pour participer à l'alliance que nous avons créée, Tous Unis contre le virus, pour venir aider avec de très jolis modèles, souvent différents, certains qui impliquaient leurs employés, d'autres qui ont fait des opérations de mécénat différentes, ou même des produits partage qui créent un produit et qui reversaient une partie des ressources à l'Alliance.
Donc on le voit, cette Alliance a bien marché d'une certaine manière, en tout cas ça a suscité un intérêt, ça a fait un appel aux dons et à la générosité. Est-ce que ça a nuit un tout petit peu à vos autres actions du côté de la Fondation de France ?
Non, et c'est pour ça que nous arrivons, si je puis m'exprimer ainsi, à faire plus 20% sur toute l'année. C'est que je crois que ça a renforcé cette crise, elle a révélé beaucoup de fragilité dans notre société, des choses qui étaient très précaires, et d'un coup des gens ont basculé dans la pauvreté, dans les difficultés. Et donc les Français ont compris qu'au contraire, il fallait continuer à se mobiliser pour l'ensemble des causes.
Vous nous dites que c'est une époque pleine d'espoir. Comment trouver un espoir, ça peut paraître paradoxal, en pleine pandémie ?
Parce que la société civile s'est mobilisée. Il y a eu les dons en argent, mais sur le terrain, il y a eu des idées de bénévolat, d'engagement dans tout le territoire, dans les villes, dans les zones rurales. Je voudrais juste vous donner un tout petit exemple. Dans l'Aude, la maison paysanne, d'un coup, tout s'arrête. Donc, les agriculteurs n'ont plus accès au marché pour aller vendre leurs produits. Et donc, cette maison décide de monter un service itinérant pour aller vendre la production des agriculteurs et passer dans 25 villages qui n'étaient plus desservis, qui n'avaient plus de commerce, qui n'avaient plus rien, notamment auprès des personnes âgées isolées. La société civile, finalement, elle a le pouvoir d'inventer ces idées, donc à nous de les garder et de les faire grandir au fil des mois.
C'est-à-dire que vous aussi, vous êtes, elle le rappelait très bien Elisabeth, la plus grosse fondation de France, l'un des plus gros acteurs de la philanthropie en France. Ça vous a fait réfléchir sur votre façon de travailler, de vous dire il y a de nouvelles manières de faire aujourd'hui de la philanthropie, d'avoir de la générosité et d'aider des publics peut-être auxquels vous n'aviez pas pensé jusque-là ?
Alors, cette crise, effectivement, et les idées qui ont été imaginées pendant les premières semaines du premier confinement, ça nous a démontré qu'une de nos grandes convictions, qui est à la Fondation de France du collectif, de la mise en réseau, il fallait le déployer et l'amplifier. Nous avons mis en lien des traiteurs solidaires qui fabriquent des sachets repas avec des associations qui accueillent les plus démunis. Nous avons mobilisé le réseau de résilience pour fabriquer des masques, pour les livrer au personnel soignant. Et en fait, ça nous a confortés et effectivement fait évoluer dans la mise en œuvre de nos programmes d'action pour privilégier la co-construction et le rassemblement des initiatives.
Ce sont d'excellentes nouvelles ce que vous nous annoncez aujourd'hui, Axel Davezac. La société civile qui a le pouvoir d'inventer des idées, c'est ce que vous nous dites. Et c'est ce que l'on va voir pendant toute la durée de cette émission. Vous êtes la directrice générale de la Fondation de France et vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Allez, on parle de solidarité aujourd'hui dans La France bouge. Et si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, vous venez de l'entendre, l'année 2020 a été bonne, notamment pour la Fondation de France, grâce à votre générosité. Une année 2020 historique et parfois pour de bonnes nouvelles, notamment parce qu'on n'a jamais donné autant à la Fondation de France. Notre grand témoin aujourd'hui, c'est la directrice générale de cette fondation, c'est Axel Davezac.
Et puis, il y a des personnes rares qui décident de consacrer leur vie au service des autres, comme vous, Alexandre Mars. Bonjour.
Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Vous êtes entrepreneur et philanthrope à la tête d'Epic Foundation, on dit, hein ?
Epic Fondation. Fondation Epic,
allez, ouais, la Fondation d'Epic, on parle anglais et français. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez fait fortune dans les nouvelles techno et avec cet argent, vous avez créé une fondation pour aider les autres. Aujourd'hui, votre fondation, dont vous financez le fonctionnement sur vos fonds propres, hein, près de 8 millions d'euros en 6 ans, soutient 26 organisations non gouvernementales qui viennent en aide aux jeunes défavorisés dans 11 pays, dont la France. Alexandre Mars, en quoi la crise a-t-elle un impact très fort sur cette philanthropie ?
Elle a déjà un impact très fort sur les organisations, sur les associations, sur les ONG. Le vécu de 2020 a été catastrophique pour ces organisations. Et c'est vrai qu'on a vu se développer une plus grande solidarité. Alors pas que financière, on a vu partout en France se déployer des idées, des gens, et ici, vous le savez bien, parce que vous rencontrez tellement de ces personnes qui créent, qui veulent
plein d'énergie
créer.
Ici. Ici, on ose.
La France bouge, et elle a beaucoup bougé en 2020. Elle a beaucoup bougé en 2020, et elle s'est rendue compte que c'était faisable. Souvent, on pense par le passé que c'est l'autre qui fera, c'est l'État qui fera. On est toujours dans ce modèle qui est notre modèle historique, culturel. L'année dernière, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'autre choix que de faire.
C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est venu valider votre modèle de dire on doit se supplanter ou en tout cas accompagner les États quand on peut le faire par la philanthropie que vous avez développée, Alexandre.
Exactement, Emmanuel. Quand on parle de solidarité, on parle de partage. On est sur ce sujet-là. On se rend compte qu'aujourd'hui, il n'y a pas de partage. Et ce n'est pas qu'un partage d'argent, Elisabeth. C'est aussi un partage de temps, d'idées, de compétences. Et c'est ce qu'on a vu sur le territoire pendant que le territoire était bloqué. On a vu ce que disait Axel au préalable. Des gens se dire, mais je vais faire ça. Je vais utiliser mon restaurant, il est fermé. Je vois le cloître à Marseille qui a dit, on va faire les casseroles solidaires. Vous allez voir 40 bénévoles qui ont fait 10 000 repas qui ont été servis par le SAMU social. Et ça, ça a été partout. Et je remercie Axel de l'avoir dit. Ce n'est pas un sujet parisien. Certainement pas. C'est dans toutes les villes, dans toutes les régions de France que vous voyez ces gens qui sont bons et qui font et qui tentent d'avoir un meilleur partage.
Vous parlez, Alexandre Mars, des restaurants, donc des entreprises. Comment agissent en ce moment les entreprises ? Est-ce que là aussi, vous constatez un changement ?
C'est compliqué pour les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui, soyons clairs, qui nous disent « je ne sais pas si je peux payer mon salarié, je ne sais pas si je serai vivant encore dans un an ». Donc il y a une partie des entreprises, il y en a une petite partie, digitale en particulier, qui vont très bien. L'impact n'a certainement pas changé leur vie, a certainement amélioré leur croissance et leur profitabilité. Donc ces organisations-là, plus que d'autres, vont certainement devoir, et un certain nombre, on verra avec Cézanne qui viendra plus tard, si leur déploiement, qui est quand même un déploiement commerce et e-commerce, leur a permis d'avoir plus de moyens. Pour tout un tas d'autres industries, c'est très compliqué et on ne peut pas leur en vouloir. Le premier objectif, c'est de survivre.
Vous aviez voulu réinventer aussi la façon de faire le don quand vous avez lancé Epic. C'est-à-dire que vous vouliez que le don soit réel, soit concret, et surtout qu'on suive l'évolution avec, par exemple, si c'est un puits en Afrique, qu'on puisse voir la construction de ce puits et qu'on puisse derrière voir les gens venir derrière. Est-ce que ça renforce encore, là aussi, votre volonté d'accentuer ce genre de projet encore plus concret ?
Et évidemment, la difficulté qu'on a, par exemple, souvent quand je pose la question aux gens, est-ce que vous... Et le terme philanthrope est un terme compliqué, parce que c'est un peu guindé. Mais quand on pose la question, est-ce que vous êtes un philanthrope ? Et nos auditeurs et nos auditrices vont dire, certains noms vont dire, moi je le suis, je paie mes impôts. Et une partie des gens, en France et ailleurs, disent, moi d'une certaine manière, je vais l'être, j'aide les autres. La difficulté qu'on sent, c'est qu'on ne sait pas où va l'argent. Et très souvent, la question, le second sujet, c'est, je ne sais pas vraiment... si c'est bien utilisé. C'est pour ça qu'on considère, et c'est dans certains pays faits, si vous voyez en Australie, quand vous payez des impôts, vous voyez que localement, il a été utilisé et il va être fléché. Donc le sujet de pouvoir savoir et d'avoir des solutions pour voir où vont ces moyens-là est un sujet important parce que ça vous concrétise une partie qui est non négligeable.
Alors votre fondation EPIC Alexandre Mars, elle agit sur quoi concrètement ?
Elle agit sur...
Quels exemples ?
Donc en fait, la fondation EPIC, notre travail c'est de trouver des associations, des ONG qui font un travail considérable pour changer la trajectoire des plus jeunes, des enfants, des jeunes, dans 11 pays du monde, comme vous l'aviez indiqué au préalable. Et donc, on va aider ces organisations à se déployer. Donc, on va les sélectionner, parce qu'il y a toujours un problème de confiance. Les gens n'ont pas forcément confiance dans les associations, donc on va leur redonner cette confiance.
On leur apporte une sorte de label, d'une certaine manière.
C'est un label, c'est exactement ça. C'est un label épique, c'est un mouvement pour démontrer que c'est faisable, ces organisations existent, elles font un travail admirable. Et c'est nécessaire aujourd'hui de les soutenir et d'avoir confiance dans les entrepreneurs sociaux.
Un exemple qui vous a marqué tout particulièrement ?
Aujourd'hui, par exemple, évidemment, dans les différents pays, mais concentrons-nous sur la France. Nous, en France, on aime bien tout ce qui est autour du mentorat. On se rend compte que le mentorat est essentiel pour justement casser ces plafonds de verre, avoir ces sujets-là. Et donc, on a une organisation qu'on aime beaucoup qui s'appelle Télémac, qui est une organisation qui est partout en France, dans différentes régions, qui permet en fait d'aider des jeunes à partir de la 5e, d'avoir un double mentorat pour aider ces jeunes à leur dire c'est faisable. Oui, si tu veux faire de la radio, ne pense pas que parce que tu es venu de région ou d'un quartier sensible, ce ne sera pas pour toi. Si tu veux travailler dans telle catégorie, ils vont les aider.
Ne pas s'auto-censurer.
Jamais, c'est un sujet qu'on a en France comme ailleurs. Il faut justement redonner comment casser ce plafond de verre qui existent au quotidien.
Axel Davanzac, je rappelle que vous êtes la directrice générale de la Fondation de France. Là, on entend le fait que ce soit concret. Est-ce que c'est une demande aussi de plus en plus de la part des gens qui vous donnent de l'argent, de dire où va véritablement mon argent ? À quoi sert-il ? Est-on certain qu'il ne va pas être dépensé en frais généraux d'une certaine manière, mais que ça va vraiment servir à la personne que je veux aider ?
Ça, c'est le préalable et le prérequis, si vous voulez, dès lors que... Vous avez un donateur, vous lui devez de lui rendre des comptes, de lui expliquer. Donc ça, ça fait partie, j'allais dire, du métier des associations et des fondations. Mais ce que je voudrais dire plus précisément, pour revenir finalement à l'histoire d'Alexandre, c'est que pour moi, ce qui est très important, c'est que la Fondation de France, elle a été créée pour développer l'envie d'agir pour les autres. Et Alexandre, quand on s'était rencontrés au tout début, il y a 4 ans, pour moi, c'est quelque chose qui est important parce qu'il fait partie des philanthropes, même s'il n'aime pas le mot, qui assument d'avoir réussi, d'avoir gagné de l'argent et aujourd'hui de s'engager. Parce qu'il y a beaucoup, moi je connais beaucoup, beaucoup de fondateurs qui sont extrêmement généreux, mais qui n'en parlent pas. Et je crois au contraire que plus on va parler de l'engagement,
et plus ça peut donner des idées
et avoir envie de s'engager. On arrive à encourager ce mouvement.
Alexandre, on vous appelle comment si vous ne voulez pas qu'on vous appelle philanthrope?
Je suis un citoyen et je suis un citoyen très engagé. Et l'engagement touche à l'activisme. Mais oui, c'est ça. Et comme Axel le dit, moi, l'argent, d'avoir gagné de l'argent, vous l'avez indiqué, c'était l'introduction d'Emmanuel, c'était un moyen, ça n'a jamais été une fin.
Et vous
je suis un entrepreneur et surtout un citoyen engagé au quotidien pour les autres.
Un citoyen engagé au quotidien pour les autres. Merci à vous, Alexandre Mars. Je dis quand même philanthrope, hein, entrepreneur, à la tête de la Fondation EPIC.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
On est comme chaque jour, très heureux avec Elisabeth de vous accueillir là sur Europe 1 en direct dans la France bouge de 13h à 14h. Aujourd'hui, on parle générosité. Et si vous êtes avec nous depuis le début de l'émission, je le rappelle, notre invitée principale, c'est la directrice générale de la Fondation de France. Elle nous a dit que l'année 2020 est en forte progression pour votre générosité, là à vous qui êtes en train de nous écouter, ce qui en fait même une année record du côté de la Fondation de France.
Et dans cette émission consacrée à la solidarité, à la philanthropie, même si Alexandre Mars n'aime pas trop cette expression, on voit que les entreprises sont de plus en plus sensibilisées à cette question. Il n'est plus rare qu'elles mettent en place des programmes pour reverser une partie de leurs gains à des projets qui ont du sens, comme vous. Bonjour Morgane Cesalori.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la fondatrice et la créatrice de la marque Cézanne. Cézanne, c'est un immense succès. Ça existe depuis 2013. Première marque de mode française née sur Internet, née en ligne. Elle fait un carton, mais au fond de vous, ce n'est pas suffisant. Vous avez toujours voulu changer le monde et faire du bien à ceux qui sont en difficulté. Ainsi, depuis 2018, vous êtes à l'origine du programme solidaire Demain, qui soutient des actions concrètes en faveur et pour accéder à l'éducation, à la culture. Une sorte de combat pour l'égalité des chances. Pourquoi, Morgane Cesalori, cet engagement solidaire, ça vous vient d'où ?
Ça vient de ma famille, je pense, où il y a vraiment déjà mes parents qui viennent de familles assez modestes et donc qui avaient eu la chance eux-mêmes d'être aidés et soutenus par des associations et des organisations quand ils étaient enfants et plus jeunes. Et donc, après, moi, j'ai toujours eu conscience qu'on avait été, du coup, enveloppés ce qui nous permettait, enveloppés d'amour, enveloppés aussi d'une forme de confort qui permet aussi d'avoir une assurance et de pouvoir imaginer...
Et de démarrer dans la vie.
Ouais.
Vous avez perdu, je crois, votre frère, je crois qu'on peut le dire, quand il avait 12 ans, parce que c'est ça aussi qui explique le fondement de votre engagement. C'est pour ça que vous voulez soutenir des causes qui ont trait à l'enfance, à l'éducation, à la culture, au combat pour l'égalité des chances ?
Alors, enfin, en tout cas, il avait 25 ans et il était en voyage. Il a eu la malaria et effectivement,
Votre émotion,
m'a fait prendre conscience aussi qu'évidemment, il y a la vie qu'on a, nous, dans un environnement qui est quand même déjà à la base où on est en pleine épidémie, donc c'est assez inattendu, mais qu'on a aussi une chance et qu'on n'a pas toujours cette conscience et pas assez de gens ont cette conscience que les vies ne sont pas les mêmes partout ailleurs.
Donc vous connaissez un succès considérable avec votre marque Cézanne et vous avez mis en place ce programme solidaire. Concrètement, que fait Demain, le nom de votre programme ?
Alors en gros, Demain, c'est... Donc en fait, moi je me suis dit, j'ai une marque aujourd'hui qui est très... où on a une communication directe avec nos clientes, avec beaucoup, beaucoup de femmes en l'occurrence. Et donc on a ainsi un devoir, c'est comme un média, au-delà des créations qu'on propose, c'est aussi un média et on a un devoir de transmission, de faire prendre conscience et donc je me suis dit comment on peut finalement tout simplement, puisque je pense qu'on est beaucoup souvent à se dire qu'on veut faire quelque chose mais qu'on ne sait pas comment, qu'on ne sait pas comment on peut tout simplement contribuer Et donc, on a créé un appel du 21 qui s'appelle donc l'appel solidaire du 21 chaque mois.
Donc, c'est-à-dire le 21 de chaque mois, voilà. Il y a un appel sur le site internet de Cézanne. Et là, ce qu'on achète, ça vous permet de reverser
exactement. 10% des ventes. Et on a aussi des créations solidaires chaque mois. Et donc là, on a depuis 2018 reversé 4 millions d'euros.
En 3 ans, 4 millions d'euros, ça me paraît énorme.
Et oui, en
ce
même temps.
Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est on a un devoir. Mm-hmm. Ce qui est marrant, c'est quoi ce devoir ? C'est votre devoir moral de vous dire, moi j'ai une chance extraordinaire, je fais le boulot de mes rêves, je gagne peut-être beaucoup d'argent en le faisant, et donc je dois partager. C'est ça votre
oui,
devoir ?
Oui, je pense qu'on a tous un devoir citoyen d'agir pour la société et prendre conscience qu'on n'est pas juste dans notre petit monde et que tout va bien quand tout le monde va bien. Donc ça, c'est la base d'une éducation et c'est aussi une croyance qui est quotidienne. Et je
crois que vous encouragez aussi vos équipes, hein, puisque vous avez pas mal de salariés. En plus de vos clientes, ça passe par quoi ? Vous leur dites,
on a un temps, s'ils le souhaitent, dédié à des actions solidaires. Donc elles peuvent toutes contribuer aux associations qu'on soutient ou même à d'autres associations de leur choix. Et donc l'idée, c'est aussi, encore une fois, de passer ce message que chaque action, chaque personne peut avoir un impact positif.
Alors un impact positif, et on le voit aussi au niveau des bénévoles. Et là, je reviens avec vous, Axel Davezac. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de la Fondation de France, qui est un problème en ce moment, les bénévoles, puisque bien souvent, ce sont les personnes à la retraite hein, qui sont principalement là dans les rangs des associations, des personnes que l'on ne vaccine pas pour le moment et qui du coup ne veulent pas ou ne peuvent pas sortir de peur du Covid. C'est une inquiétude pour vous en ce moment, cette situation du côté des associations ?
C'est une inquiétude pour eux. Parce que ça a été dès le mois de mars, c'est vrai que du coup nous avons organisé des réunions en visio avec les bénévoles de la Fondation de France et la frustration qui était la leur de se dire il faut que j'aille aider. Il faut se souvenir que les centres d'accueil étaient fermés ou le premier jour il n'y avait plus les restos, il n'y avait plus rien hein, pendant une quinzaine de jours. Et ils disaient mais il faut que j'aille aider, je ne peux pas. Et je leur disais non, en fait, il faut que vous restiez chez vous, protégez-vous. Donc ça a été très compliqué pour eux à vivre toute cette période et ça l'est encore. En revanche...
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations et il y a eu un cri d'alarme qui a été lancé oui. lundi sur Europe 1 en disant on n'a pas assez de monde en ce moment. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de bras. Par exemple, on est allé faire un reportage du côté des banques alimentaires dans leur centre d'Arcueil où là, en banlieue parisienne, où là vraiment les bénévoles présents disaient mais on n'y arrive plus en ce moment. Il y a tellement plus de demandes, il y a beaucoup de générosité, mais on manque de bras.
C'est une vraie difficulté, mais en revanche, moi je cherche toujours à voir les choses positives du moment. On a eu aussi un engagement des jeunes qui a été extraordinaire depuis le mois de mars. Il y a aujourd'hui 40% des jeunes qui sont engagés et les premiers mois, pendant le premier confinement, ce sont les jeunes qui sont allés toquer à la porte des personnes âgées, qui sont allés organiser des distributions de repas, qui vraiment se sont mobilisés. Donc je pense qu'on peut vraiment leur rendre un bel hommage aussi. Parce qu'eux-mêmes sont particulièrement dans une situation difficile aujourd'hui, tous nos jeunes, et ils ont été absolument extraordinaires.
Alexandre Mars, vous êtes resté avec nous, hein, Alexandre Mars, citoyen engagé à la tête de sa fondation, Épique Fondation. Je crois que vous aviez une question à poser à Morgane Cézalori.
Oui, ce qui est intéressant, c'est on parlait de citoyen tout à l'heure, ce qu'on voit, c'est que le consommateur est lui-même de plus en plus engagé. Donc on le sent, et les entrepreneurs aussi. Et quand on voit ce que fait Morgane, c'est assez intéressant de se rendre compte que quand on entend ces entrepreneurs qui se créent, ils voient en fait dans leur succès plus uniquement un succès financier. Donc c'est ça un peu la question pour toi, Morgane. Est-ce que tu as monté ce sujet, l'appel du 21 ? Est-ce que tu regardes tout ce qui est entreprise à mission ? Est-ce que tu regardes les labels comme le label Bicorp, par exemple ? On voit de plus en plus d'entrepreneurs qui... Ouais. Est-ce que tu l'es ? Est-ce que tu es en train de regarder ça ?
On est entreprise à mission et on est en train d'être validé Bicorp.
Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, pour nos auditeurs, l'entreprise à mission, c'est un choix de l'entreprise d'avoir des objectifs que vous devez remplir en termes de développement social, de développement environnemental. Et c'est assez récent, il y a très peu d'entreprises, très peu de grosses entreprises qui le font aujourd'hui. Mais du coup, c'est vrai que c'est très engageant pour vous. Là, vous placez plus votre développement social, plus important finalement que le développement économique chez Cézanne.
En tout cas, pour moi, il va de pair. C'est-à-dire que je pense que l'avenir de tout, on ne peut plus rien faire dans une duplicité. Et c'est essentiel dès le départ pour moi. Et encore une fois, moi, j'ai un parcours où je ne pensais pas du tout. J'ai jamais imaginé le succès. Ça ne fait pas partie de mon...
C'est marrant de dire ça, parce que quand on lance une marque, comme vous de vêtements, Cézanne, on a l'espoir que ça fonctionne.
Oui, en fait, moi, je suis autodidacte. Et donc, ce que je voulais, c'était surtout je me suis jamais dit que j'allais créer une marque en ligne qui serait un jour
un tel succès.
Voilà, exactement. Ce que je voulais, c'était me créer un environnement qui corresponde à ma sensibilité. Et il se trouve que finalement, ça s'est fait de façon très organique. Et je pense que c'est arrivé à un moment où il y avait pas encore de mode en ligne. Il y avait pas. J'exprimais un peu ma sensibilité. Et je pense que les gens se reconnaissaient un peu dans cette.
Est-ce que ça fait partie aussi maintenant que vous êtes bien installé, vous avez ce programme qui s'appelle Demain, est-ce que lorsque vous faites des recrutements, c'est une donnée que vous prenez en compte maintenant pour accepter un nouveau et recruter un nouveau salarié ?
Après, je me dis pas, je vais absolument chercher quelqu'un qui est actif, mais par contre, je pense qu'on ne vient pas postuler chez Cézanne quand on n'a pas une forme de sensibilité pour l'autre et l'humain. Moi, j'adore les gens. Je pense que c'est ce qui me passionne et c'est pour ça que quand je dis... C'est vrai que moi, j'ai un parcours atypique pour un entrepreneur, c'est que, encore une fois, ce que j'aime le plus au quotidien, c'est travailler avec mes équipes et voilà, c'est ça qui me...
Du coup, si on vous dit, dans 10 ans, vous imaginez Cézanne comment ? Vous me regardez avec des gros yeux en disant, mais j'en sais rien.
Moi, honnêtement,
je veux déjà être là demain et que ça continue.
Exactement, et surtout, ce que je veux, c'est que c'est ce sens-là. Je pense qu'on a la chance de... On a la chance de travailler avec du sens. Ouais.
Alexandre Mars, vous avez travaillé aux États-Unis à un moment, notamment chez Publicis. Vous connaissez bien cette société américaine. En France, les philanthropes ont mis beaucoup de temps, notamment du côté des chefs d'entreprise, à le dire. On donne et on peut potentiellement donner beaucoup. Est-ce que vous pensez que ça peut un peu changer à un moment où les fonds publics manquent fortement pour la solidarité ?
Ça va changer pour deux raisons. Un, parfois on va penser que ça peut être pour du corona washing ou du covid washing. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des gens comme Morgan qui le font réellement parce que c'est dans sa culture. Mais vous allez avoir de plus en plus d'entreprises qui vont devoir le faire. Pourquoi ? Parce que sans ça, le consommateur, les consommatrices qui nous entendent aujourd'hui vont acheter de moins en moins de produits. On l'a vu avec des entreprises comme C'est qui le patron, que vous connaissez très bien, qui ont gagné des trophées.
Des prix Europe 1.
Exactement, trophées Europe 1. Et pourquoi elles ont fonctionné ? Parce qu'on répond à un besoin, et un besoin qui n'est pas uniquement financier, mais quelque chose qui est plus large que ça. C'est ce sujet de partage, et c'est ces entreprises-là qui vont gagner demain.
Un besoin de partage et de sens. Morgane, avant de nous quitter, vous soutenez quelles associations pour qu'on puisse se faire une idée ?
Alors, la Voix de l'Enfant, qui est une fédération d'associations Sport dans la ville, qui est un programme extraordinaire, très concret et qui a un impact incroyable.
Qui permet de développer le sport auprès
Le sport et du coup de donner un sens et aussi des activités concrètes pour que tout le monde, dans le quotidien...
Ait accès
voilà.
au sport.
Et une dernière association qui s'appelle Demos et qui est donc la Philharmonie de Paris qui a monté un orchestre exceptionnel.
Merci à vous Morgane Cézalori, fondatrice et créatrice de Cézanne, à l'origine du programme solidaire Demain. Hein, en 3 ans, ce sont près de 4 millions d'euros collectés pour soutenir des milliers d'enfants. Merci à vous d'être venus dans La France Bouge.
Et un grand merci à vous également Alexandre Mars. Je rappelle que vous êtes donc citoyen engagé à la tête de la Fondation EPIC.
Et Axel Davezac, directrice générale de la Fondation de France, vous restez avec nous. La France Bouge, ça continue. Et c'est le moment de mettre votre casquette de coach parce qu'on va vous demander votre avis sur un projet d'entreprise.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et oui, elle bouge cette France, vous l'entendez depuis le début de cette émission et c'est parti maintenant pour les trophées. Europe 1, la France bouge. Attention, Nathalie Carré, notre partenaire de la CCI est là, elle est prête, elle est dans les starting blocks et nous sommes toujours avec notre témoin du jour, Axel Davezac, qui est la directrice générale de la Fondation de France.
Et on le voit chaque jour dans la France bouge, même en ce moment, en pleine crise, ils osent se lancer, comme vous depuis juin dernier, Ferdinand Monco, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 26 ans, vous êtes le cofondateur de Flow Fleur. Ce sont des fleurs séchées, biologiques, à fumer ou infusées comme alternative naturelle au tabac. Tout est parti de votre envie d'arrêter de fumer. Je crois que vous avez fait la découverte des fleurs séchées. De quoi s'agit-il ? Vous avez une minute pour votre pitch.
Alors Flo, c'est une jeune entreprise qui propose des mélanges de fleurs séchées biologiques produites en France et destinées à être fumées et pourquoi pas infusées. Ce projet, il a vu le jour parce qu'on était deux associés lassés par l'industrie du tabac et on voulait trouver une alternative biologique et plus responsable à la consommation de ce dernier. Et on a découvert les fleurs séchées comme substitut. Et après avoir acquis des connaissances sur le sujet, le projet Flo est né. Notre offre, elle s'articule autour de 6 promesses pour le consommateur avec des produits qui sont 100% bio, économiques, sans nicotine, donc sans addiction, sans additifs chimiques, biodégradables et fabriqués en France. Nos mélanges de fleurs, ils se consomment comme une cigarette roulée ou tubée, et à la fin, ça donne donc une cigarette de fleurs. Nous proposons trois recettes, une saveur dite neutre, une mentholée et une fruitée. Actuellement, on vend nos produits uniquement sur notre site internet flowfleur.fr au prix de 10 euros le sachet. Et aujourd'hui, on recherche des investisseurs pour accompagner notre développement, c'est-à-dire faire l'acquisition de matériel pour l'industrialisation.
Je dois vous arrêter, malheureusement, je suis le méchant de l'équipe. Moi.
Notre réseau de distribution.
Voilà. Mais bon, c'était
en tout cas,
bien.
C'était vraiment très... J'ai juste une question. Quand on est un vrai fumeur, ça a le même goût qu'une cigarette? En tout cas, on trouve le... Parce qu'on n'a pas de nicotine, du coup.
Non, c'est... non, ça a un goût différent. C'est un goût de fleur, en fait, séché. C'est différent. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir retrouver en fait, la sensation de la combustion. Avec la fameuse sensation dans la gorge que beaucoup de fumeurs
et vous ça
apprécient.
Vous a permis de totalement arrêter de fumer?
Ah oui, le tabac,
vous ne touchez plus à une seule vraie cigarette?
Non, c'est terminé.
C'est fort, hein. On va tous, vous allez avoir une explosion d'appels et de connexions, bah, hein, juste après l'émission. Alors Ferdinand, je vous présente Nathalie Carré. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Ferdinand, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la CCI. Vous fumez, vous, Nathalie?
Ah, pas du tout. Ah. J'ai plein d'autres vices, mais pas celui-là.
Bon, alors, on ne peut pas tous les savoir.
Vous avez deux, trois choses à dire à Ferdinand, les forces et les faiblesses de Flowfleur. On vous écoute.
Alors, point positif, c'est la cohérence. En fait, sur votre site, vous ne dites pas « on va vous aider à arrêter de fumer », mais vous allez continuer de fumer sans vous détruire ni détruire la planète. Et puis peut-être qu'un jour, comme vous, vous arrêterez le tabac. Et donc, effectivement, puisque tant qu'on conserve la gestuelle, bah, on conserve un peu la dépendance à la cigarette. Deuxièmement, vous expliquez les vertus de chaque fleur et leurs origines, et c'est rassurant. Et puis le côté deux en un, puisque vos fleurs se boivent également. Alors, sur le point négatif, je dirais qu'il manque un accompagnement à l'acte d'achat. Quand on clique sur un produit, vous dites juste « menthe et bouillon blanc ». Ok, alors le bouillon blanc, moi, je ne sais pas très bien à quoi ça ressemble. Donnez les pourcentages, expliquez le procédé de fabrication, expliquez si on fume les feuilles ou les fleurs, expliquez les saveurs. Ce n'est pas facile de comprendre ce que c'est que le bouillon blanc. Et puis, pour capter les fumeurs qui achètent des cigarettes aujourd'hui, expliquez comment on roule une cigarette pour les aider à passer le cap. Donnez des infos pour évaluer le coût. Le paquet coûte 10 euros, mais on fait combien de cigarettes avec? Et puis, proposer des accessoires, des feuilles de papier à cigarette écologique, une boîte pour stocker ses fleurs. Bref, expliquer et accompagner pour faciliter l'achat, parce qu'il va falloir convertir vos fumeurs en fumeurs de fleurs.
Alors déjà, combien de cigarettes dans un paquet?
Alors dans un paquet, on peut faire entre 30 et 50 cigarettes à peu près.
Vous avez vendu depuis le début de votre lancement environ 500 sachets.
Oui.
Qui sont vos clients, j'ai envie de vous dire, enfin vos premiers clients?
Alors, on a vraiment des clients très, très éclectiques, c'est-à-dire qu'on a à la fois des jeunes, en fait, qui sont attirés par la découverte, parce que les fleurs, ça a quand même un côté assez sympathique et rassurant. Et on a aussi des fumeurs de longue date qui, justement, veulent arrêter de fumer et qui n'ont pas réussi avec les moyens traditionnels, comme par exemple la cigarette électronique, et qui, du coup, tentent un autre moyen.
Et c'est vrai que c'était intéressant, là, tout ce que vous disiez, Nathalie Carré. Finalement, le plus dur, c'est de commencer avec vous, donc de nous aider. Je crois que c'est comme ça que Nathalie essayait de l'exprimer, de nous aider à passer à l'acte. Parce qu'on le sait pour des nicorettes ou ce genre de choses, mais vous, c'est ça le plus compliqué. Comment vous allez nous aider, alors?
Bah, nous, aujourd'hui, c'est vrai que c'est notre défi. Et en fait, nous, on est très, très présents avec notre communauté. On est très présents sur les réseaux sociaux. Et en fait, on répond toujours très vite à toutes les interrogations que peuvent avoir nos consommateurs. Et en fait, notre messagerie, notre contact est toujours ouvert. Donc, pour la moindre question, on est là. Et merci pour les conseils. On va augmenter le site.
Je me tourne vers vous, Axelle Davezac, directrice générale de la Fondation de France, notre témoin du jour. Quel regard portez-vous sur ce jeune entrepreneur, hein, sur Ferdinand qui se lance dans... Là aussi, il aide d'autres, hein, il vient en aide à celui qui souhaite arrêter de fumer.
C'est un très joli projet qui résonne, on va dire, pour le monde de l'intérêt général que je représente aujourd'hui sur deux aspects. Le premier, bien évidemment, c'est... le côté bio du produit, la préservation de l'environnement. Enfin, aujourd'hui, on sait que c'est le défi majeur, hein, qui est devant nous. Il y a une coalition française des fondations pour la lutte contre le dérèglement climatique qui s'est créée l'année dernière, parce qu'il y a une vraie urgence. Et donc, tout ce qui peut favoriser le circuit court, le bio, le naturel est indispensable pour l'avenir. Et le deuxième, c'est cette toute jeune génération qui s'engage, qui se lance malgré les difficultés. Tout ce monde qu'on appelle, nous, le monde de l'économie sociale et solidaire. Mmh. Et comme je le disais tout à l'heure, nous avons les solutions, en fait. Mettons-les en œuvre, engageons-nous, créons, développons. Et enfin, c'est ma conviction.
Et c'est ce que nous faisons chaque jour dans La France Bouge. Merci à vous, Ferdinand Monco, cofondateur de Flo Fleur.
C'est pas facile à dire. Bah, je suis bien contente de ça, Elisabeth, parce que j'en serais incapable.
Donnez-nous de vos nouvelles. On aime bien avoir des nouvelles des personnes qui viennent nous présenter leur projet à La France Bouge. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Et Nathalie Carré, on vous dit donc à demain, si vous aussi, hein, vous voulez comme ça présenter votre projet à notre témoin du jour, à notre partenaire de la CCI et à tous nos centaines de milliers d'auditeurs que nous aimons tous. Eh bien, vous avez une adresse mail, notamment pour Flo Fleur, e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et vous pourrez comme ça faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Axel Davezac, directrice générale de la Fondation de France, vous restez encore un petit peu avec nous suite et fin de notre émission.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Allez, La France Bouge, dernière partie de votre émission. Nous sommes toujours avec Axel Davezac, qui est la directrice générale de la Fondation de France. On parle solidarité depuis le début de cette émission.
Et notre société change, nos entreprises aussi, elles s'adaptent, elles se transforment et elles permettent d'améliorer la vie de chacun. Et c'est ce que fait cette agence de communication. Bonjour Pierre-Yves Loaé.
Bonjour à tous.
Vous êtes le fondateur des Bureaux du Cœur. Vous dirigez une agence de communication à Nantes. Vous avez 25 salariés. Et à l'époque, vous aviez des bureaux dans le centre de Nantes. Et chaque soir, en sortant, vous pouviez apercevoir une femme qui dormait dans le parking. Et là, vous vous êtes dit, ce n'est pas possible. Mes bureaux sont vides la nuit. Votre idée est née. Vous y avez réfléchi pendant plus d'un an. Vous êtes allé voir des associations. Et que s'est-il passé ?
Bah écoutez, il s'est passé que effectivement les associations nous ont confirmé qu'il y avait un besoin d'hébergement parce que les associations qui s'occupent de personnes en grande précarité, je pense que vos invités en plateau le savent bien, en studio pardon, c'est que elles ont la capacité à s'occuper de ces personnes-là la journée, mais le soir il manque toujours des lits. Et nous, pour le coup, on a des espaces le soir, alors qu'en journée on les a pas. Donc il y avait là un échange de bons procédés.
Alors comment ça se passe de façon très concrète hein?
Eh ben, ça se passe bien.
C'est-à-dire, je crois que vous accueillez 5 à 6 personnes par soir, c'est ça ?
Alors, on accueille 5 à 6 personnes dans 5 à 6 entreprises différentes. Mmh. Généralement, c'est une personne dans une entreprise, ce qui permet effectivement de donner de l'intimité à ces personnes qui ont connu la grande précarité et qui cherchent à se
reconstruire, bien sûr.
Et à se reconstruire.
En fait, vous les sortez de l'hébergement d'urgence ?
C'est ça, l'idée c'est de les sortir de l'hébergement d'urgence parce que parfois l'hébergement d'urgence tire un peu vers le bas. Mmh. Et pour cause, parce que bah, vous fréquentez des personnes qui ont aussi des problèmes, des pathologies,
chacun son histoire.
Voilà.
Parce que ce qui est aussi important, c'est que vous leur offrez des contacts grâce à ça. Vous leur offrez un lit, mais vous leur offrez le contact avec des gens qui ont potentiellement du boulot à proposer.
Tout à fait. En fait, vous dormez dans une entreprise. Donc, vous fréquentez tous les jours des collaborateurs qui peuvent d'ailleurs vous aider, mais aussi un dirigeant ou plusieurs dirigeants qui ont souvent des réseaux et qui peuvent du coup aussi vous trouver un job, vous aider à vous mettre en relation avec une autre association. Enfin, voilà, faire œuvre des réseaux.
Pardonnez-moi le mot que je vais utiliser, mais comment sont sélectionnées les personnes qui peuvent venir dormir comme ça dans vos bureaux ? C'est les associations avec lesquelles vous travaillez qui vous disent, bah voilà, nous, on en a tant qui ont besoin d'un lit et vous prenez le premier sur la liste ?
Effectivement, il n'y a pas à proprement parler de sélection. On a des contraintes. On ne peut pas accueillir tout le monde au Bureau du Cœur. Ça reste des locaux d'entreprise. Donc, des personnes qui auraient des animaux, des problèmes d'hygiène, problèmes d'addiction forts, etc., nécessitent un encadrement particulier que nous, on n'est pas en mesure d'offrir. Mais effectivement, c'est bien sous la responsabilité des associations que cette sélection, pour reprendre votre terme, est réalisée.
Axel Davezac, vous êtes notre grand témoin du jour, directrice générale de la Fondation de France. Vous en pensez quoi ? Parce que je crois que Pierre-Yves a très envie de développer ce modèle. C'est une
comment
façon aussi.
Oui.
Comment pouvons-nous l'aider ?
La première chose, en tout cas pour saluer quand même, c'est ce qui est fait par Pierre-Yves et d'autres entreprises.
Lui, c'est unique, hein.
C'est tout à fait unique et ce que je trouve moi d'extrêmement important, c'est que en fait, en faisant venir ces personnes dans les bureaux, on les accueille. Très souvent, on a tendance à exclure ou isoler
à les mettre de côté
les personnes vulnérables et à les prendre en charge entre elles. Et là, ce qu'on dit, c'est tu as ta place parmi nous et avec nous. Et ça, je crois que c'est extrêmement important.
Merci à vous, Pierre-Yves Loaé. Je rappelle que vous êtes le fondateur des Bureaux du Cœur et dirigeant donc de cette agence de communication à Nantes.
Merci beaucoup, Axel Davezac, directrice générale de la Fondation de France, de nous avoir accompagnés aujourd'hui.
Et Emmanuel, nous, on se retrouve demain à 13h. On parlera de quoi ?
On parle de musique demain. On sera avec le patron de 10h. On parlera streaming musical.
Et on aura aussi Martin Solveig.
Eh ouais, mais attendez, on voulait faire la surprise quand même.
Ah oui, mince. Bon, allez, à demain. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.
Europe 1, écoutez le monde changer.